Donc, la jeune reine, après un début très encourageant, eh bien, elle devient très vite très impopulaire et dès l'âge de 25 ans, donc quelques années plus tard, 4-5 ans plus tard, 6 ans, elle sera impopulaire, vraiment, il y aura des pamphlets. Alors, je l'ai dit, il y a eu ce problème de couple. Entre Louis et Antoinette, Marie-Antoinette. Il y avait aussi, semble-t-il, il a dû être opéré, il y avait un petit problème, phimosis, enfin, qui rendait un petit peu difficile, mais qui ne rendait pas infécond, quoi. Bon, finalement, ça va. Ils vont conclure, qu'on va dire, ils vont consommer le mariage. Bon, d'ailleurs, on a la date précise, enfin, je l'ai vu quelque part, c'est parce que tout se sait à la cour, bien sûr. On sait que le roi a rendu visite à la reine, telle nuit, etc. Alors, les enfants vont naître. Le 19 décembre 1778, Marie-Thérèse, du nom de sa grand-mère. Ensuite, il y aura un premier, on va dire, un premier dauphin, le 22 octobre 1781, Louis-Joseph Xavier, mais qui va mourir en 1789. Donc, il meurt à 8 ans. Hein. Ensuite, celui qui deviendra Louis XVII, né le 27 mars 1785, donc le dauphin, à l'époque duc de Normandie, et une fille, Sophie, 1786, et elle meurt en 1787. Alors, il y a aussi la rencontre, on simplement l'évoquait, avec Axel de Fersen. Alors là, les différences du roi, qui est un brave homme, mais qu'elle a pu appeler à un moment le pauvre homme, elle l'appelait, vous voyez, ça donne une idée. Mais au final, avec les enfants qui naissent, et puis les souffrances qu'ils vont endurer en commun, les épreuves, eh bien, ça deviendra une profonde amitié entre Louis et Marie-Antoinette. Hein. Mais il y a la rencontre avec Axel de Fersen, on en a assez parlé, qui a une dimension romanesque. Il est beau, il est généreux, loyal. Il fait la guerre d'Amérique aux côtés de Lafayette. Voilà. Il y a une première rencontre, on ne va pas s'étaler là-dessus, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Ont-ils été amants? On ne sait pas. C'était une relation très pure, très romanesque, très tendre. Et il lui sera fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Alors, aggravation, si on peut dire, dans l'impopularité. Alors, c'est un sommet, en quelque sorte, c'est la fameuse affaire du collier. Nous y avions consacré une émission en 1785-86. Où elle est victime. La reine est victime, elle n'est même pas d'une machination, mais on utilise son nom pour une escroquerie, hein, avec la complicité, ou plutôt la bêtise, l'épaisse naïveté, sottise du cardinal de Rouen. Mais ça, elle est innocente totalement, mais il en restera, le peuple ne cherche pas à savoir dans les détails, et Rouen, lui, est innocenté, alors que le roi, sur l'incitation de la reine, l'avait fait arrêter le cardinal. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un ébranlement de la monarchie, voilà, très sérieux. Alors, août 1788, problème financier, notamment provoqué par la guerre d'Amérique. Et la guerre d'Amérique était une catastrophe pour les finances. Les finances ont plongé dans le rouge. C'est très beau, très généreux, mais ça a été un des éléments de l'effondrement de la monarchie. Convocation des états généraux en 1788 pour justement régler le problème financier, élever des impôts. Mai 1789, ils vont se transformer en assemblée constituante. Enfin, et c'est la révolution qui va s'emballer. Voilà. Et bientôt la chute. 5 et 6 octobre 1789, la famille royale, une horde de femmes, mais aussi d'hommes déguisés en femmes, travestis, se rendent à Versailles et ramènent la famille royale à Paris, aux Tuileries. Voilà. Alors, les journées révolutionnaires vont suivre, ça va aller se dégradant, si on peut dire, la situation. 21 juin 1791, alors ça sera la fuite à Varennes. La famille royale est quasi prisonnière aux Tuileries et ils vont tenter une fuite. Et là aussi, ils ne réussiront pas, alors que normalement, ils auraient dû réussir. Mais ils commettent tellement d'imprudence, de retard. Là, c'est Fersen qui avait organisé. Mais Fersen n'a pas suivi le convoi jusqu'au bout. S'il avait suivi, peut-être aurait-il sauvé la famille royale, Louis XVI, Marie-Antoinette, Élisabeth et les deux enfants. On sait que la fuite va s'achever à Varennes et ils seront ramenés alors dans des conditions apocalyptiques à Paris. C'est un miracle qu'ils aient échappé à la mort. Une foule, la reine a ses vêtements déchirés, enfin, c'est une horreur totale. 20 avril 1792, déclaration de guerre à l'Autriche. On sait qu'Antoinette est autrichienne. 20 juin 1792, alors journée révolutionnaire, la foule envahit les Tuileries, on contraint le roi à se coiffer du chapeau, révolutionnaire, du chapeau rouge, de boire à la santé de la révolution. Enfin, c'est l'humiliation. Là aussi, ils échappent, mais ils auraient pu être tués. 25 juillet, on donne la chronologie, 1792, le manifeste de Brunswick, c'est un général autrichien qui publie un ultimatum au peuple français, au gouvernement français, au gouvernement révolutionnaire. S'il a fait le moindre mal à la famille royale, eh bien, il va détruire Paris, il va faire table rase. Mais ça a un effet inverse, ça provoque une réaction au contraire de vengeance, de haine, de colère. Et c'est la journée du 10 août 1792 qui voit vraiment la fin de la monarchie. Le peuple envahit les Tuileries, la famille royale se réunit à l'Assemblée nationale et sera désormais prisonnière. Hein. Les Suisses sont massacrés, le roi, la reine, Elisabeth et leurs deux enfants se réunissent à l'Assemblée et ils seront bientôt retenus et vont être envoyés à la prison du Temple, c'est-à-dire dans le donjon du Temple, pas le palais du Temple, qui était tout à fait acceptable, mais dans une vraie forteresse, une vraie prison, une vraie géole. Je vous citerai cette phrase de Lafayette, qui était aussi aux journées qui suit toute cette période. On ne sait pas trop s'il est pour ou contre la monarchie, il est entre deux si on peut dire. Il contribuera à sauver la famille royale lors des journées d'octobre, hein, alors que la reine est prête, échappe de justesse au massacre. Et il déclare à son propos, elle songe à être belle dans le danger plutôt qu'à l'écarter. Voilà. Et ce sera la deuxième partie, là nous allons nous focaliser notre émission sur le sujet que j'appelle le chemin de croix et le martyr. Et donc, au moment où elle deviendra vraiment digne reine, et là elle va changer aussi physiquement, parce qu'avant c'était la jeune femme, la beauté, très belle, très élégante, avec des coiffures incroyables, mais au retour de la reine, ses cheveux ont blanchi, et au moment de son procès et de son exécution, elle a l'apparence d'une femme de 60 ans. Elle a vieilli par les épreuves. C'est presque une vieille femme de 38 ans. Nous y revenons, nous la retrouvons là au temple, dans le donjon du temple. Nous la retrouvons après le deuxième intermède musical. Voilà, c'est une complainte qui se situe, qui donne la parole à la reine. C'est elle qui est censée chanter, et lors des journées du 5 et 6 octobre 1789.